walk up and down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio-Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Logeuse. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Devant la fenêtre, le rideau soulevé d'une main pour qu'elle puisse voir. Elle est grande, mince, dans les 50 ans, cheveux châtains qui descendent jusqu'à son épaule, le visage osseux, yeux bleus, lèvres pulpeuses, son rouge à lèvres est bordeaux et paraît trop rouge pour un visage déjà fatigué par l'âge. Elle porte une robe rose, trop collante et courte, des talons aiguilles rouges. un collier, un bracelet et une montre en or. Elle semble attendre quelqu'un et regarde si personne n'entre dans son immeuble. Immeuble 1930. La rue est étroite, il fait un temps gris. Le salon où elle se trouve est sombre. Ni les murs, ni le plafond n'ont été refaits depuis 50 ans. Les meubles sont des années 30. Elle vient de voir un homme ou un jeune homme habillé d'un costume gris entrer dans son allée. C'est peut-être lui. Elle reste à la fenêtre songeuse. Vient de retentir la sonnerie de la porte palière, ce qui la fait sursauter. Elle se redresse, range ses cheveux avec sa main et sort du salon pour aller ouvrir. Dans un petit couloir sombre. Avec au bout se trouve la porte. Elle ouvre. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, grand, mince, les cheveux châtains, visage fin et doux, yeux bleus et petit nez. C'est lui qu'elle a vu entrer dans son allée. Bonjour madame, je suis Patrick Dupont, la personne qui vous a téléphoné il y a une semaine pour la pièce. Oh oui, entrez, je vous en prie. Il entre. Elle ferme la porte. Veuillez me suivre. Elle le mène au salon. Entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Il lui montre un fauteuil. Vous désirez boire quelque chose? Non, merci, madame. Elle s'assoit dans le fauteuil qui est en face de lui. Je loue cette pièce, c'est pour avoir une présence dans ce grand appartement. Mais ne craignez rien. Vous aurez votre entrée privée et je ne viendrai pas vous déranger. Chacun ses soi. C'est la meilleure façon de ne pas se gêner. Voyez-vous, je suis ici depuis toujours. Cet appartement était celui de mes parents, qui sont morts maintenant il y a... Oh, ne craignez rien. Ils ne sont pas morts ici. Ma mère est morte d'un accident de voiture il y a de cela 20 ans. Et mon pauvre papa vient de mourir il y a 6 mois, à l'hôpital. On l'avait mené d'urgence, en pleine nuit, à cause d'une crise cardiaque. Oui, à 3 heures du matin. Pauvre papa. Il était dans le commerce. Lorsqu'il était jeune, il faisait le commerce avec nos anciennes colonies, surtout l'Indochine. Mais il était déjà à la retraite depuis 20 ans. Pauvre papa. Mère était une femme très bien, distinguée. La famille des Pontois. Les conserves se sont connues à un bal. C'était très romanesque. Papa était très séduisant. Elle le regarde bien, le jeune homme. Le trouve très sage et beau. Elle sourit et lui dit « Maintenant, pour la première fois de ma vie, je me trouve seule. Et comme je me trouve, ne travaille pas. Oui, je suis en longue maladie. Je suis professeur d'anglais. Le travail scolaire, la tension nerveuse des professeurs m'ont rendu les nerfs fragiles. Ça fait 5 ans que je suis en congé maladie et je vais y rester quelques années jusqu'à ma pré-retraite. Ce qui fait que malheureusement, je me trouve toute la journée chez moi, sans rien faire. Et toute seule, dans ce grand appartement, je suis comme une jeune fille qui aurait quitté ses parents pour vivre seule. Mais moi, je ne suis plus une jeune fille, malheureusement. Je suis vieille. Elle sourit. Le jeune homme semble gêné par toutes ces confidences. Elle continue, hélas.
C'est pour cela que j'ai besoin d'une présence. Juste le fait de savoir que quelqu'un est chez moi, cela me rassurerait. Mais ne craignez rien. Je suis extrêmement discrète. Mais je parle. Et vous, parlez-moi de vous, jeune homme.
Le jeune homme sourit. C'est pas facile de parler à une femme qui pourrait être sa mère. Et dire quoi? Il est venu ici, juste pour une chambre. Voilà tout. Et on lui parle d'un tas de choses.
Je suis venu pour la chambre parce que j'ai besoin d'un logement.
Je suis en ville pour travailler chez un notaire et en plus, j'ai poursuivi mes études à l'université.
Ah, des études de quoi?
Plus tard, je veux être professeur d'histoire.
Vous avez de la famille?
Oui, mes parents sont à Caen, ou plutôt dans la banlieue de Caen.
Le jour commence à baisser, il n'y voit presque plus.
Elle lui demande.
Vous recevez du monde?
Je connais personne ici.
C'est pas que je veuille, mais... Vous êtes libre du côté des mœurs, mais... Je suis libre du côté des mœurs, moi aussi, mais... Mais même je, moi-même, je, enfin, vous ferez comme vous voudrez.
Je sais qu'un joli garçon comme vous, de toute façon, vous êtes libre.
Elle soupire et lui dit. Vous voulez rien boire?
Non, merci, madame.
Oh, je vous en prie, pas madame. Nous allons vivre ensemble. Appelez-moi Sophie. Et moi, je vous appellerai Patrick.
Il lui dit gêné.
Bien, madame Sophie.
Elle sourit et lui dit.
Vous apprendrez. Bon, eh bien, je vais vous montrer l'appartement.
Elle se lève.
Venez. Il se lève. Inquiet, sans savoir pourquoi, il se demande s'il ne fait pas une bêtise.
Alors ici, c'est le salon, n'est-ce pas? Tel que mes parents l'ont meublé. Je l'ai toujours vu ainsi. D'ailleurs, tout l'appartement est resté le même. Je n'ai rien changé. Je trouve que c'est reposant, ces vieux meubles, n'est-ce pas?
Oui, très.
Venez.
Ils sortent de la pièce.
Ils se trouvent dans le couloir.
Alors, à droite, vous avez la chambre à manger.
Je n'y vais jamais. Je préfère manger à la cuisine. Les volets sont fermés.
Et là, ici, c'est la cuisine.
Une petite pièce, tout en longueur, avec un buffet, une table en bois peint en blanc.
C'est la chambre de bain,
petite comme un placard avec une douche et un petit lavabo.
Là, c'est ma chambre. Entrez.
Il entre. La pièce est assez grande, un lit à deux places avec un couvre-lit en satin rouge bordeaux. Une grande armoire penderie. Ça sent un mélange de naphtaline et de poudre de riz. Sur une chaise se trouve une combinaison de soie rose, comme on en faisait en 1950.
C'était la chambre de mes parents. Vous aurez la mienne.
Ils sortent. Elle ouvre une porte.
Voici votre chambre.
Le fait entrer. La pièce est rectangulaire, un lit à une place, dessus du lit, sur toute la longueur, car le lit est le long du mur qui est en face de l'armoire, une table basse. Donc, au-dessus du lit se trouve une étagère où il y a des poupées genre Vogue. La pièce s'en arrose.
C'est ma chambre de jeune fille. Je n'ai pas enlevé les poupées parce que je trouve que ça fait bien pour la décoration. Cela ne vous gêne pas ?
Non.
Elle va vers l'armoire et l'ouvre.
Vous voyez, elle est vide. Vous pouvez y mettre toutes vos affaires. La porte qui est en face, là, donne dans l'allée. C'est la porte qui est en face de la mienne. Ce qui fait que vous pouvez entrer dans votre chambre sans passer par mon appartement. Vous serez entièrement libre. Cela vous va ?
Oui, merci.
Cela ne vous gêne pas de vivre dans ma chambre de jeune fille ?
Non, pas du tout.
Je peux vous assurer, c'est que j'ai toujours été en bonne tenue dans cette pièce. Vous la prenez ?
Oui, je la prends.
Très bien. Nous allons signer le bail.
Et il sort de la pièce. Vont au salon. Éclair. Elle le fait asseoir à une table.
Asseyez-vous.
Va chercher dans son secrétaire des papiers. Et lui fait signer.
Tenez, signez, mon ami.
Une fois qu'elle est signée, elle lui dit.
Voilà. Ouh. Tout va très bien maintenant.
Voilà, vous serez très bien ici. Et puis, vous savez, je suis très discrète.
Ni vous verrez, ni vous m'entendrez.
Il se lève et lui dit. Je vais chercher ma valise à la gare.
Oh oui, bien sûr.
Et elle leur accompagne. Avant qu'elle ne parte,
oh oui, vos clés.
Elle lui donne une clé.
Tenez,
merci madame. Et il sort.
Elle reste dans le couloir, tout excitée en faisant les 100 pas et se dit
« J'ai un locataire, un gentil jeune homme, qui est beau, bien de sa personne, que je suis heureuse. »
Elle reste dans le couloir, car elle veut entendre sa venue. Elle attend une demi-heure en faisant les 100 pas. Elle reste paralysée, n'ose pas bouger de peur qu'il l'entende, lui. Car si elle se dit que si elle l'entend, lui, il doit l'entendre obligatoirement. Elle reste un long moment à écouter. Ce lui fait une sensation étrange, quasi sexuelle. Elle a l'impression d'entrer dans l'intimité de ce beau jeune homme. Désormais, tous les jours, elle va écouter son locataire. Elle sait quand est-ce qu'il se lève, s'habille, prend sa douche, part, revient. Chaque fois qu'elle sait qu'il va venir, elle ne peut s'empêcher d'aller écouter dans le couloir. Elle reste debout, sans bouger, au milieu du couloir, le corps qui bat. Thank you. Depuis son entrée, elle ne l'a pas revu. Elle est intriguée, se demande comment il vit. Elle a envie de voir le décor de ces bruits qu'elle entend, mais n'ose pas y aller, le voir. Elle se dit devant la porte. J'ai aucun prétexte à aller le voir. Et je lui ai dit que je ne le dérangerai pas. Cela la travaille. Elle a envie d'aller dans cette chambre, une envie de plus en plus forte.
Elle va plus d'une fois dans le couloir. Puis s'en retourne. Et retourne. Ce serait plus correct que j'y aille lorsqu'il y est. Et s'en retourne. Mais lorsqu'il entend, lorsqu'elle entend qu'il est de retour, elle va vers la porte plusieurs fois et n'ose pas frapper.
Elle fait ceci plusieurs jours de suite. Un après-midi, elle se dit, je dois trouver un prétexte pour entrer chez lui lorsqu'il n'y est pas. Voyons. Elle réfléchit bien et se dit, j'ai trouvé. Je vais lui apporter une couverture parce que les nuits sont fraîches et qu'une ne suffit pas. Oui, voilà un gentil prétexte.
Vite, avant qu'elle n'ose plus le faire, elle va dans sa chambre ouvrir l'armoire et sort de l'armoire une belle couverture de laine bleue. Elle est toute neuve. Sort de la chambre et, une fois devant la porte, avec la couverture à la main, c'est le mur.
Plusieurs fois, elle va, vient, toujours le mur. Cela l'énerve.
C'est pas possible. Je suis chez moi tout de même. C'est ma chambre.
Elle est agacée. Agacée contre ce jeune homme qui l'oblige à un comportement pareil.
Voyons, ma fille. Tu es idiote ou quoi? Tu n'as qu'à ouvrir une porte pour déposer le lit, sur le lit la couverture.
Elle se dit. Voyons, voyons. Prends la clé dans la poche et va la mettre dans la serrure.
Mets la clé dans la serrure. La porte s'ouvre. Elle entre. Elle est dans la chambre. La pièce est à moitié dans la pénombre, à cause des volets qui n'ont pas été entièrement ouverts. Elle est très émue, le corps qui bat. Elle est très émue, le corps qui bat. Malgré que ce soit sa chambre, cette chambre où elle a vécu durant 40 ans, elle a l'impression que c'est une chambre inconnue. Ça sent une odeur étrange, chaleur humaine et parfum indéterminé. Elle n'ose pas regarder autour d'elle, par timidité. Dépose la couverture sur le lit, qui a été fait à la va-vite, avec des plis et des draps froissés sous la couverture. Puis, elle quitte la pièce en vitesse. tremblante, honteuse, et referme la porte à clé. Il va s'asseoir au salon. Elle s'assoit dans un fauteuil, essoufflée.
Là, elle a honte de ce qu'elle a fait. Elle réfléchit.
J'aurais pas dû entrer dans sa chambre. Cela va le vexer. Il va me prendre pour qui ? Après une heure de réflexion, elle retourne à la chambre pour prendre la couverture et retourne au salon. 2 heures plus tard, j'aurais dû la laisser la couverture. Elle me démontre que je pense à lui, à son bien-être. Elle retourne mettre la couverture. Elle se rétracte plusieurs fois dans la journée. Elle va plusieurs fois prendre ou remettre la couverture. Sans qu'elle s'en rende compte, plus elle va dans la chambre, plus cela lui paraît naturel et elle en a moins d'émotions. Et puis, une fois qu'elle a déposé la couverture sur le lit du jeune homme, elle se dit « Je suis bête. » Il n'avait qu'à lui mettre un mot, comme cela il saurait pourquoi je suis entré chez lui et déposé ses couvertures. Il saura que ce n'est pas par indiscrétion.
Vite, elle retourne au salon. Écrire un mot. Assis à une table, elle lui écrit.
Monsieur, je me suis permis d'entrer dans votre chambre pour vous apporter une couverture. Car faisant trop froid, j'ai pensé qu'une ne suffisait pas. Amicalement, votre logeuse dévouée.
Elle met le petit mot dans une enveloppe et va le déposer sur la couverture. Puis, elle attend son retour.
Tout à coup, elle entend la porte de la chambre s'ouvrir. Elle n'ose pas bouger. L'on frappe à la porte du salon. Tremblante, elle dit
« Entrez !»
Entre le jeune homme qui va vers elle.
Madame, je suis venu vous remercier pour la couverture. Oh, ce n'est rien, monsieur. Si. Oh, vous aviez froid?
Un peu, oui.
Vous auriez dû venir me le dire. Je vous l'aurais donné de suite. Il ne faut pas vous gêner lorsque vous avez besoin de quelque chose.
Merci, madame. Mais je ne veux pas vous déranger.
Pas du tout. Cela me faisait plaisir de vous rendre service. Et ne m'appelez pas madame, je suis Sophie. Vous voulez boire quelque chose?
Non, merci madame.
Vous ne me gênez pas.
Ce n'est pas cela, mais j'ai à travailler, mes cours à étudier.
Bien, je comprends.
Elle est contente qu'il soit sérieux.
Bon,
Eh bien, si vous pouvez partir, si vous voulez partir pour étudier.
Merci, madame. Encore merci.
Et il a dit.
Elle est heureuse, ça s'est bien passé. Il a bien pris la chose. Il se dit que c'est un garçon charmant, gentil, sérieux et timide.
Il n'osera même pas prendre le thé avec moi.
Il se dit aussi.
Il n'osera jamais faire le premier pas pour me demander quelque chose. C'est à moi, à lui proposer et à prendre les devants.
Les jours passent. Et elle cherche quelque chose à lui donner, ce qui lui permettra d'entrer dans sa chambre. Car, lorsqu'il est entré pour la couverture plusieurs fois, elle n'a rien vu.
Que pourrais-je lui apporter pour lui faire plaisir? Voyons.
Elle se dit qu'un gant de toilette et une serviette éponge seraient bien vus. Et puis, ça se fait dans les hôtels. Elle va vite et déposer sur le lit avec un petit mot.
On a toujours besoin d'un gant et d'une serviette de toilette.
Il s'en retourne en vitesse. Le soir, à son retour, elle attend sa réponse. Mais il n'est pas venu. Déçue, elle se dit qu'il n'a pas osé la déranger. Les jours passent. Elle épie toujours les bruits qu'il fait. Dans sa chambre ou dans la salle de bain. Il peut y entrer sans passer par le couloir directement dans sa chambre. De temps en temps, elle va dans sa chambre pour lui apporter des petites choses, savon, barre de gâteau qu'elle a faite. Elle lui met aussi, en plus des petits mots, pour lui dire son amitié, s'il a besoin de rien. Elle lui parle aussi d'elle. Lui écrit qu'elle vit seule, voit personne. Lui ne répond pas. Ne répond pas à ses écrits ou à ses cadeaux. Au début, cela lui fait de la peine. Puis elle se demande s'il n'est pas fâché. Puis elle se pose plus de questions. Elle reste de plus en plus longtemps chez lui. Regarde autour d'elle. Mais ne touche à rien. Le lit est de plus ou moins en désordre. Il y a de temps en temps du linge sur une chaise ou des chaussettes à terre. De voir tout ça, cela la trouble, car elle sent que ce sont des choses qui ont été portées sur son corps et qui ont pris ses formes et son odeur. Elle n'ose pas y toucher. La nuit, elle est de plus en plus troublée. Par des rêves où elle voit le jeune homme et le voit dans la chambre à lui en train de dormir, de s'habiller, de prendre sa douche. Elle en a chaud et aimerait qu'il la touche. Comme il n'y a qu'une boîte aux lettres, il a mis son nom au-dessus d'elle avec une étiquette. Il a la clé de la boîte aux lettres. Un matin, en prenant son courrier, elle voit que lui aussi a deux lettres. Au moment où elle remet dans la boîte aux lettres les lettres, elle se dit « Je suis bête, j'ai qu'à les lui porter dans sa chambre ». C'est ce qu'elle fait. Le soir, le jeune homme ne réagit pas.
dois trouver naturel que je fasse ça. Elle le fait tous les jours. Et à force de prendre des lettres, elle est intriguée et aimerait bien savoir ce qu'elles sont. Regarde la lettre, la tourne et la retourne. Ne voit rien. Et fait cela plusieurs jours de suite. Et puis, un jour, par curiosité, il y a deux lettres. Elle regarde bien et voit que ce sont des enveloppes autocollantes. Elles se décollent et se recollent facilement. Allez, j'ouvre et on verra bien. Elle ouvre délicatement une enveloppe. Et voit que c'est une pub pour commander un livre. Elle referme l'enveloppe. Ouvre l'autre. C'est une lettre de sa mère. Elle la lit. Lettre banale d'une mère aimante qui demande des nouvelles de son fils. Remet la lettre dans l'enveloppe. Déçue. Elle est déçue de ce qu'elle a lu, mais en même temps satisfaite. Cela lui prouve que c'est un garçon sérieux et aimant. Elle va déposer la lettre dans la chambre. Sur la table de nuit. Le soir, elle attend sa réaction. Qui la prévient qu'il a vu que la lettre était ouverte. Non. Il n'a rien dit. Il n'est pas venu. Désormais, malgré elle, elle ouvre son courrier. Un jour, en ouvrant la lettre, comme la colle était trop, c'était trop collé, ça tenait trop, sans faire exprès, elle a déchiré l'enveloppe. Elle était obligée de jeter la lettre. Rien de sérieux, c'était une pub. Mais le geste a été fait sans remords, naturellement, car ça lui semble naturel de lire son courrier. Elle se dit que c'est pour voir s'il est sérieux. Sa mère en ferait autant. Il est chez moi tout de même. La plupart des lettres sont des lettres de parents, famille ou amis, mais pas de lettres intimes. Elle se demande ce qu'elle ferait si elle voyait une lettre de femme. Elle est de plus en plus troublée par son locataire, qu'elle ne voit pas. Ce qui est plus grave, parce que si elle le voyait, ça ne lui permettrait pas de le sublimer. Elle reste de plus en plus de temps à voir ces choses dans la chambre, sans y toucher, à l'écouter lorsqu'il est chez lui. Lorsqu'il met son pantalon, le bruit de la fermeture à glissière le trouble. Thank you. de la douche. La douche et la ferveur et la cierre sont ces deux bruits qui la mettent le plus dans tous ses états.
Un après-midi, elle se dit, il est trop timide et poli. Je suis sûr qu'il n'a pas fait la cour, qu'il a fait la cour à aucune fille. Il est incapable de faire le premier pas.
Alors elle se met à rêver qu'il pourrait la désirer et qu'il rêve comme elle, de son côté, veut de lui.
C'est normal, je suis une femme et lui un homme.
Elle croit que cela suffit pour le désir. La différence d'âge et le physique, elle n'y pense pas.
D'abord, c'est moi qui dois faire le premier pas. Mais comment?
Elle réfléchit durant toute la journée et décide de lui écrire une lettre d'invite. Elle ne sent même pas le côté abaissant et de sa façon vulgaire. Elle risque de dégoûter le jeune homme. Donc, elle lui écrit et décide que ce soit le plus lisible possible, car elle se dit que de son côté, il semble être un peu niais ou ignorant, sûrement à cause de sa mère qui l'a trop protégée. Elle lui écrit qu'elle vit seule, en dehors du monde. De toute façon, elle est naturiste. Et que si par hasard elle entrait chez elle, il risquerait de se trouver confus tous les deux, dans une situation équivoque et gênante. Le soir, elle attend. Rien. Déçue, elle se demande ce qu'il a dû penser de son mot. Puis elle se dit qu'il n'a pas dû le voir. Mais plusieurs soirs de suite, elle attend son retour nu dans le couloir et reste une heure après son retour pour voir. Mais il ne vient pas. Elle se dit qu'il est trop timide ou poli. Il donne malgré tout un bon point. Malgré sa déception, elle lui donne un bon point.
C'est trop tôt ou trop tard. Il fera le pas. Elle continue à venir les pieds toujours. Et puis, elle lui apporte des petits cadeaux et le courrier. Elle reste de plus longtemps dans sa chambre, assise sur le lit, regarde le linge qui traîne, cela la trouble. De temps en temps, elle se lève pour le toucher, le sentir. Les chaussettes, ses slips, ses chemises, pantalons. Va aussi dans la salle de bain, touche son gant, ses serviettes, passe le gant sur son visage et l'embrasse. Sans qu'elle ne se rende compte, son amour est devenu fétichisme. Pourtant, elle ne le sait pas, elle ne le voit pas, elle l'entend seulement. Lorsqu'il prend sa douche, elle est dans le couloir. Se déshabiller. Le bruit de la fermeture éclair de son pantalon.
lui rappelle la puissance. La puissance de l'homme. Une ou deux fois, alors qu'elle était dans la douche, elle essaye de le voir par le trou de la serrure. Ne voit que les carreaux en faïence blanche du mur. Et les jours passent. Décide d'aller le voir pour lui demander s'il n'a besoin de rien. Elle hésite un peu et frappe à sa porte. Entrez. Elle entre. Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junet Jean-Pierre, La Logeuse, dont c'était la première partie. Production, mise en scène, Junet Jean-Pierre, enregistrement CVRP.